Radio Okapi.
Maisha bora.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maisha Bora qui s'intéresse aujourd'hui au cancer du sein et du col de l'utérus, facteur de risque et signe d'alerte. Marcel Ngomobala est à la présentation de ce numéro. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangasa sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. En Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, on enregistre chaque année environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer et parmi les cancers les plus fréquents, on retrouve les cancers du sein, du col de l'utérus, de la prostate, du foie et le cancer colorectal. Dans ce numéro, nous nous intéressons particulièrement au cancer du sein et du col de l'utérus qui se compte parmi les cancers les plus courants chez la femme. Et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre du Dr Antoine Modia, gynécologue, obstétricien, médecin, directeur général de la clinique des anges située au quartier Beauvent dans la commune de Lingwala, ici à Kinshasa. Quels sont donc les facteurs de risque de ces deux types de cancers? Quels en sont les signes d'alerte? Nous allons les découvrir dans ce numéro des Maisha Bora. Mais avant, que faut-il comprendre de manière générale par cancer, suivant les explications du docteur Antoine Modia?
Vous savez, les problèmes, pour expliquer simplement, que chacun de nous est constitué de ce qu'on appelle des cellules. Les cellules, c'est en fait ce qui fait que vous soyez ce que vous êtes, que vous ayez des bras, que vous ayez des yeux et tout ça. Mais ces cellules se multiplient dans un ordre, c'est-à-dire que ces cellules doivent naître et mourir. Donc chaque seconde, il y en a des milliards qui naissent et il y en a des milliards qui meurent. Et alors il y a tout un système de contrôle dans l'organisme. C'est-à-dire, une cellule ne peut pas se permettre de pouvoir se développer de manière indéfinie, sans arrêt, sans orientation. Malheureusement, toutes ces cellules sont commandées par notre matériel génétique. Et là où sont renfermées de contrôle, des régulations, de la multiplication. Mais malheureusement, pour des raisons qu'on ne sait pas très très bien préciser maintenant, mais c'est lié parfois à des facteurs externes comme des virus. Et ces cellules-là, eh bien, ont échappé au contrôle naturel. Elles commencent à se multiplier sans arrêt et envahir les tissus environnants et pourquoi pas les restes d'organismes. C'est ce qu'on appelle les cancers.
Selon cet expert, le cancer du sein tue alors qu'il y a beaucoup de chances de guérir de ces cancers lorsqu'il est dépisté précocement. Pour cela, il faut régulièrement se palper le sein.
Mais le cancer du sein, c'est un cancer malheureusement qui tue beaucoup de femmes, même dans notre milieu. En fait, au départ, c'était un cancer des milieux aisés de femmes. En Europe, donc c'était parmi les cancers les plus courants, mais malheureusement, avec la mondialisation de la vie, même les femmes jeunes meurent du cancer, même dans un pays sous-développé comme les nôtres. Donc c'est un cancer, je voudrais vous dire, qui devrait être normalement évitable. Il est mortel, il devait être évitable. Pourquoi? Parce que les seins sont accessibles à chacun de nous. Alors en parlant du cancer du sein, je voudrais vous dire que la plupart des gens, même pendant les campagnes que nous organisons, et les hommes ne viennent pas parce qu'ils se disent les cancers du sein, c'est pour les femmes. Ils oublient que nous avons des petits seins et qui peuvent tomber malades, qui peuvent justement, malheureusement, abriter un cancer. C'est pour ça que je dis que c'est un cancer qui ne devait pas tuer, parce que on peut facilement être en contact avec ses seins en se lavant le matin. Il faut palper ses seins. Donc les seins sont normalement souples. Il n'y a pas de boule dedans. Lorsque vous remarquez quelque chose comme ça, eh bien, il faut aller voir son médecin. Vous savez, le problème aussi dans nos pays, disons dans notre région africaine, les gens ne vont pas voir les médecins pour des raisons diverses. Hein. Peut-être que c'est par ignorance ou par manque de moyens, manque d'argent. Mais on devrait normalement aller voir son médecin chaque année, même si on on n'a pas de signe, même si on ne sent rien. Malheureusement, le fait de ne pas y aller, le fait de ne pas se contrôler, et ça vous amène à des catastrophes. Comme vous savez, c'est ça qui tombe malade, dont les cellules malignes envahissent tout l'organisme et la personne meurt. Et la plupart des gens qui viennent nous voir, nous viennent avec des cancers au stade complètement dépassé. Tout simplement parce qu'ils ont négligé de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'autopalpation. Je parle des femmes, je parle aussi des hommes, c'est pour ce que je vous ai dit, mais surtout les femmes. Et donc, on pouvait ne pas mourir de cancer du sein si on fait ce qu'on appelle l'autopalpation et qu'on s'est dit, donc là, je remarque quelque chose d'anormal, je dois aller voir mes médecins pour pouvoir me faire examiner à fond parce que vous n'avez pas la capacité vous-même de poser le diagnostic d'un cancer du sein. Même nous-mêmes, médecins, nous avons besoin des astuces. On peut pousser plus loin les analyses, par exemple, les analyses histologiques pour dire, voilà, on confirme que la boule que vous avez, en fait, abrite un cancer du sein.
Il est bon pour toute femme, mais aussi pour tout homme, de se palper régulièrement le sein. Et une fois que vous avez la sensation d'avoir une autre boule en dehors de la glande mammaire, il faut aller se faire consulter pour des examens appropriés. Mais que faut-il chercher? On ne se palpe pas le sein.
Mais d'abord, pour connaître la boule qui est là, qu'on appelle la glande, hein, parce qu'en fait, la femme est faite pour quoi? C'est tout ça qu'il faut respecter la femme. Et donc, sans la femme, sans ses seins, nous ne serions pas là, hein, Marcel, moi et vous, en train de parloter. Ça signifie que la femme est faite pour être femme, mais pour être mère aussi. Et c'est le fait qu'elle soit mère, qu'elle a le sein, pour nourrir ses enfants. Et donc, il y a déjà des boules, plus ou moins grosses, hein, en fonction de la femme. Il y a déjà, il y a des femmes qui ont des petits seins, il y a des femmes qui ont de gros seins, donc avec de grosses glandes. C'est justement ça qu'il faut faire pour être habitué à connaître la consistance de cette boule, qui est quelque chose d'élastique, de souple et qui ne fait pas mal du tout, un peu sensible. Vous savez aussi que le sein, c'est une zone érogène. Hein? Et donc, les seins a des boules. C'est une boule normale qu'on appelle la glande mammaire et qui grossit en fonction aussi de la physiologie de la femme. Hein? On n'a pas le même sein quand on est en train d'avoir ses règles. On n'a pas le même sein lorsqu'on commence une grossesse. On n'a pas le même sein pendant la période d'ovulation, donc, mais ça c'est bon, c'est normal, ça peut changer un peu de volume, mais ça reste assez. Dont je parle, c'est qu'il ne faut pas qu'en dehors de cette boule normale, naturelle, élastique, que vous sentiez autre chose, d'un peu plus ferme ou dur là-dedans. C'est comme ça que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de mal qui commence à se développer dedans. C'est pour ça qu'on demande aux femmes, et je crois que c'est un geste que nous faisons chaque jour. En vous lavant, eh bien vous lavez la poitrine, il faut passer la main sur le deux seins et aussi ne pas oublier de passer les mains en dessous des aisselles, parce que justement, certains cancers se développent à partir des ganglions, ou même s'ils sont déjà dans le sein, mais c'est le ganglion qui prend un peu plus de volume que le cancer lui-même dans le sein. Donc c'est pour ça qu'on conseille, je dirais de manière rigoureuse, cette palpation quotidienne. Mais vous pouvez ne pas le faire tous les jours. Hein. Une seule fois par mois suffit pour pouvoir vous rendre compte.
Autre chose qui peut vous amener à consulter un médecin, c'est lorsque vous avez un écoulement du sang ou bien un écoulement du lait, alors que vous n'êtes pas en train d'allaiter, un changement de forme ou de texture du mamelon ou du sein.
Il suffit pas seulement de palper les seins, parce que les seins ont une forme. Et quand on se lave, et tous les mois, il faut aussi se regarder devant un miroir pour voir la position de des tétons, c'est-à-dire les têtes de seins. C'est ce qui permet à l'enfant de pouvoir, prendre du lait. Et cette tête, elle doit être symétrique, elle ne doit pas être déviée. Il ne faut pas avoir la peau... Normalement, elle reste lisse. La peau du sein, elle doit être lisse. Mais si vous commencez à avoir l'impression que ça prend la peau d'orange, par exemple, et ça, ce n'est pas très bon. Et ça, ce n'est pas fini. Lorsqu'on fait l'autopalpation, il faut terminer par exprimer le sein. Et ben, vous, si vous êtes sans enfant, vous n'êtes pas enceinte, vous êtes ménopausée par exemple, il n'y a rien qui doit sortir de vos seins. Mais il y a de personnes, malheureusement, qui sont déjà atteintes de ces cancers, même si, parce que tous les cancers ne sont pas, disons, exprimés par la boule dont je vous ai parlé, mais parfois c'est quelque chose d'insidieux et qui est dans le canal où passe le lait, et ça abîme ce canal, et quand vous exprimez, vous pouvez parfois voir que le sein font sortir un liquide qui ne devait pas être là. Malheureusement, ça peut sortir du sang. Si c'est du sang, eh bien, il faut directement aller voir son médecin, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une femme puisse saigner par le sein après l'expulsion. Donc, c'est quelque chose qui est recommandé et aux femmes et aux hommes, parce que je voudrais dire, le cancer du sein concerne les femmes à peu près 95% des cas. Et entre 1 à 5%, ce sont les hommes qui font ces cancers. Mais ces cancers sont justement foudroyants chez un homme pour des raisons simples. Il est tout petit et la poitrine est justement attaquée très rapidement par cet envahissement. Je vous ai dit, c'est dont les cellules cancéreuses. Eh bien, elles ne restaient pas tranquilles. Elles commencent à pousser des temps tranquilles pour aller dans le tissu environnant et tout ça. C'est ce qu'on appelle de métastase, parfois à distance. Et donc, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est un cancer qui devrait être évitable.
La palpation du sein est donc l'une des méthodes simples, facile et accessible à toute femme et à tout homme, mais dites-vous bien que toute boule anormale au niveau du sein ne doit pas faire penser immédiatement à un cancer du sein, insiste le docteur Antoine Modia.
Mais ça c'est clair. Donc le fait de pouvoir palper une boule dans le sein, c'est déjà quelque chose. Donc il ne faut pas commencer vous-même à donner des noms à cette boule. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est ce que vous venez de dire, il n'y a pas que le cancer qui pousse dans le sein. Il y a des boules comme le fibrome qu'on trouve dans la matrice, parce que c'est vraiment sur la maladie de la matrice, des kystes qu'on trouve au niveau des ovaires. Et tout ça, comme vous savez, le sein c'est un organe, je dirais, de reproduction, hein, un organe génital. Et donc on peut trouver dans le sein des boules comme le fibrome, comme les kystes, mais malheureusement, vous pouvez malheureusement être porteur d'un cancer. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas croire. Les hommes, il y a un homme qui est resté longtemps parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit bouton au niveau du téton et il a gratté, mais c'était le cancer plus tard. Et comme je vous ai dit, c'est allé très très vite. Ça répand facilement et ça détruit facilement l'organisme. Donc, il n'y a pas que le cancer dans le sein. C'est comme vous l'avez dit, il faut aller voir son médecin. Et le médecin et tout y est pour pouvoir vous dire voilà, et comme je l'ai dit, le médecin peut dire voilà, il s'agit d'un kyste, peut-être d'un fibrome, mais il ne peut émettre que des hypothèses, hein, des présomptions. Le médecin lui-même, pour être rassuré que ce n'est pas un cancer, nous faisons ce qu'on appelle une petite biopsie. On prélève un petit morceau de cette boule, on envoie dans un laboratoire spécialisé qu'on appelle laboratoire d'anatomie pathologie. À ces moments-là, ces gens-là, ils sont formés, spécialisés dans la lecture de tissus. Ils peuvent vous dire que c'est un tissu normal ou c'est un tissu qui est en train justement de pouvoir s'abîmer, c'est-à-dire il y a des cellules cancéreuses à l'intérieur. Je vous ai dit, donc dans la cellule, il y a des signes de multiplication intense qu'on peut voir en faisant ces analyses microscopiques ou parfois avec le microscope normal ou électronique, et le spécialiste peut vous répondre en disant « Monsieur, vous avez raison, il ne s'agit que d'un fibrome, mais là, faites attention, il s'agit d'un cancer. »
Merci de suivre Radio Capier. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. Vous suivez en ce moment Maïcha Bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être sur Radio Capier. Nous parlons aujourd'hui du cancer du sein et du col de l'utérus, qui sont deux types de cancers les plus courants chez la femme, d'après le docteur Antoine Modia, gynécologue, obstétricien et médecin directeur général de la clinique des anges. Il est bon pour toute femme, et mais aussi pour tout homme, de se palper régulièrement le sein et de bien observer la forme de ce sein et d'aller se faire consulter lorsqu'on suspecte une boule anormale au niveau du sein ou bien lorsqu'il y a un écoulement du lait en dehors de l'allaitement ou bien un écoulement du sang, ce qui va permettre un dépistage précoce en cas d'un cancer du sein. Quant aux facteurs de risque d'un cancer du sein, toujours selon le docteur Antoine Modia, ils peuvent être d'origine alimentaire, l'abus d'alcool, le manque d'exercice physique, l'obésité, et tous ces facteurs peuvent donner lieu à un cancer du sein, mais le plus important de tous ces facteurs de risque, c'est bien les facteurs d'ordre génétique.
Eh bien, les facteurs de risque sont nombreux, ils sont plutôt alimentaires pour la plupart, c'est-à-dire il faut éviter tous les aliments gras. Chez nous, on importe tout maintenant, vous savez ce qu'on appelle les machuchus des dindons, mais c'est de la graisse. Un homme ne peut pas vivre que de la chair, de viande rouge. Il faut diversifier son régime en mangeant beaucoup de poissons. Et si c'est la viande, un peu plus de la viande blanche, le poulet, le blanc du poulet, je ne sais pas quoi d'autre. Même le porc, c'est vrai, mais il faut enlever la graisse. Il faut éviter donc la viande rouge, il faut éviter tout ce qui est gras. Par exemple, chez nous, les femmes préparent du pondo avec beaucoup d'huile, ce n'est pas bien. Et le problème de l'obésité également, manque d'exercice, les femmes qui fument. En Afrique, heureusement, il y a de moins en moins dans notre pays, par exemple, des femmes qui fument. Et en Europe, c'est vraiment 50% hein, ou 60% des femmes. Les femmes plus, fument plus que les hommes dans les régions que vous connaissez. Et donc, les tabacs, l'alcool, abus de l'alcool. Et comme je vous dis, le manque d'activité, et tout ça, ça peut entraîner, ça peut vous amener à pouvoir dérégler vos cellules internes et pouvoir développer les cancers. Mais le facteur de risque le plus important est génétique. Il y a des familles en cancer. Ça, c'est vraiment, il faut le dire. Lorsque vous avez dans une fratrie ou dans une famille de parents, des oncles ou des tantes qui ont développé un cancer du sein, eh bien, vous avez plus de risques de pouvoir, vous êtes plus exposé au cancer du sein que quelqu'un d'autre. Et il y a d'ailleurs, en Europe, des dépistages systématiques de ces gènes qui sont responsables, justement, de la multiplication anarchique des cellules et qui sont connus maintenant. Et la plupart des familles qui sont testées dans les générations antérieures, si vous avez ces genres de gènes qui sont dans la famille, et il y a des gens qui, en Europe, j'ai vu, qui vont parce que pour éviter de mourir, ils vont se débarrasser de leur sein avant que le cancer n'entre dedans. Voilà. Donc j'ai vu, et vous les remplacez pas, parce qu'en fait la chirurgie esthétique peut tout faire. Ce n'est pas vrai qu'on doit aller jusque là, mais c'est pour dire que il y a également des facteurs génétiques à la base du développement de ces cancers du sein.
Peut-on ressentir une douleur quelconque au début d'un cancer du sein ou bien encore est-ce que ce type de cancer peut-il présenter des signes d'alerte? Eh bien, ce n'est pas toujours évident, indique le docteur Antoine Modia.
La douleur, il ne faut pas attendre la douleur. Lorsque vous commencez à avoir mal au sein, je vais vous dire d'abord que les douleurs sont tout à fait naturelles chez une femme pendant l'ovulation. Les seins sont congestionnés. Le début de grossesse, la femme a un peu mal avec ses seins, congestionnés, c'est lié aux hormones. Mais quand vous avez vraiment mal et que vous avez une boule, dites-vous que on est loin. Donc ça ne commence pas par des douleurs, ça commence par donc l'apparition de ces petites boules, des nodules au niveau du sein. Mais en faisant attention, par rapport à tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que toutes les boules ne sont pas des cancers. Une fois que vous avez une boule dans le sein, vous avez une déviation, vous avez l'impression que la peau du sein commence à changer, eh bien, et que vous exprimez le sein, vous avez du sang ou un autre liquide, ça peut être du lait aussi, hein, pour revenir là-dessus. Il y a des femmes qui cherchent à avoir des enfants et qui viennent ici pour un problème d'infertilité, et je leur pose la question, est-ce que vous perdez du lait par le sein? On n'a pas besoin d'avoir du lait alors qu'on n'est pas enceinte, alors qu'on n'allaite pas. Ça, c'est une autre pathologie. Il y a une hormone qui peut perturber l'ovulation, qu'on appelle la prolactine, et qui peut émettre, faire en sorte qu'une femme qui n'a pas d'enfant, une femme qui n'est pas enceinte, puisse commencer à perdre du lait par le sein. Mais je vous dis surtout les seins. Si vous commencez en exprimant le sein à perdre du sang, il faut directement aller voir son médecin. C'est un mauvais signe, c'est des mauvais pronostics.
Comme nous l'avons dit au début de ce magazine, un autre cancer très fréquent chez la femme est celui du cœur de l'utérus. Quels sont donc les facteurs de risque du cancer du cœur de l'utérus?
Les facteurs de risque, c'est un cancer de pauvre, d'abord. Je vais vous dire pourquoi et je vais vous étonner. Dans le temps, on s'est posé beaucoup de questions. D'où venait ce cancer? C'était quoi? C'était une maladie génétique? C'était quoi? Maintenant, on sait très bien que le cancer du col peut être considéré, je dis peut-être considéré comme une maladie sexuellement transmise. Pourquoi? Parce que les lésions précancéreuses, les lésions qui précèdent le cancer, sont des lésions qui sont provoquées par un virus qu'on appelle papillomavirus, HPV. Il y a plusieurs types de ces virus. Et ce virus est transmis de manière sexuelle, de l'homme à la femme, de la femme à l'homme. Et on ne le savait pas. Et ce qui est vrai aussi, parce que je vous ai dit, ce sont des cancers qui ne devaient pas tuer, les cancers du sein, pour la simple raison qu'on peut le détecter soi-même. Et malheureusement, en ce qui concerne les cancers du col, il n'y a personne qui peut voir son col. Aucune femme au monde, même si elle met son miroir devant la vulve, elle ne verra jamais son col. C'est ce que je dis, nous n'avons pas cette culture. Les femmes en Europe sont obligées, et c'est pris en charge par l'État, d'aller se faire dépister, aller faire voir leur col à leur médecin au moins une fois l'an. Parce que ces lésions dont je viens de vous parler, précancéreuses, qui sont transmises par ces virus, sont détectées 10 à 15 ans avant que la femme ne puisse développer un cancer du col. C'est pour ça que je dis, ça ne devrait pas tuer. Parce que si on avait la possibilité de recevoir nos sœurs, nos mères ici, nos filles, hein, dans les consultations, et d'ailleurs, c'est ce que nous allons lancer à partir de cette année, des consultations des adolescentes. Parce que c'est là que ça commence. Il ne faut pas croire que nos filles qui vont à l'école déjà primaire, elles sont nécessairement saines. Hein, parce que le rapport sexuel commence très très tôt dans nos milieux. Or, le cancer du col est transmis par des rapports non protégés avec de multiples partenaires d'occasion. Et ça fait que ces virus-là, lorsqu'il est transmis, ben, vous n'avez aucun signe. En fait, il n'y a aucun signe. C'est un virus qui ne parle pas. C'est la pathologie qui va commencer à parler. Je vous dis, 10 ans après, la femme va commencer à pouvoir saigner. La plupart, à l'époque, ces choses-là arrivaient à des femmes après la ménopause. Mais maintenant, je vais vous dire qu'avec l'avènement du sida, on a des cancers du col très tôt, à 18 ans, 20 ans, 25 ans. Ça signifie qu'on commence les rapports sexuels très tôt. On appelle ça coïtarche. Donc, les premiers rapports sexuels, ici chez nous, en moyenne, commencent à l'âge de 19 ans. Il y a une étude qui a été menée par le docteur Sandrine, que vous connaissez, ma fille qui est gynécologue. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des filles de 11, 12 ans qui ont déjà commencé les rapports sexuels. Alors, je comprends très bien que si on a commencé les rapports sexuels à l'âge de 10 et de 12 ans, comme on doit attendre jusqu'à 15 ans pour développer un cancer, ça signifie tout simplement qu'à 25 ans, à 30 ans, on peut déjà développer les cancers du col parce qu'on a laissé le temps à ces lésions précancéreuses de se développer à l'insu de la femme. Eh bien, au plus tard, 20 ans plus tard, au plus tard, elle peut développer un cancer.
La pauvreté, le manque de culture, de se faire dépister régulièrement les col de l'utérus et les mœurs légères constituent entre autres des facteurs de risque importants du cancer du col de l'utérus, conclut le docteur Antoine Modia. Nous rappelons qu'il est gynécologue obstétricien, médecin directeur général de la clinique des Anges.
Donc, les facteurs de risque, c'est comme je vous dis, la pauvreté. La pauvreté fait que les jeunes femmes vont se vendre pour manger. Et ça, c'est le problème. Et aussi un problème de culture, de mœurs. Et les hommes riches cherchent des petites filles. Et je crois que ce sont des choses qu'on doit pouvoir un jour faire en sorte que ces messages passent. Mais comme c'est une maladie sexuellement transmise, je ne parle pas du cancer lui-même, je parle des lésions précancéreuses. Parce que si c'était ça, on serait tous, il n'y aurait pas de femmes sur Terre. Donc au moment où nous parlons, si vous prenez une centaine de femmes au hasard dans la rue, ben, il y a à peu près la moitié d'entre elles qui sont porteuses des lésions précancéreuses. Mais heureusement que l'organisme peut se battre pour éliminer ces lésions précancéreuses. Je voudrais aussi insister qu'il n'y a que 1% de ces lésions précancéreuses, donc provoquées, transmises, occasionnées par ces virus qui deviennent de cancers avérés. Donc, on a toutes les chances si on avait la possibilité de pouvoir faire ces dépistages de masse. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on porte notre petite contribution, parce que les femmes qui viennent ici pour se faire dépister, ben on leur dit, on a vu l'école est sain, on a l'impression qu'il y a quelques petites lésions, mais on fait ce qu'on appelle simplement, un examen simple qu'on appelle les frottis cervico-vaginales ou utérovaginales, eh bien, qu'on envoie justement dans ces laboratoires spécialisés dont je vous ai parlé. Cette fois-ci, c'est de la cytologie, pour aller voir si les cellules qu'on est en train de ramener là, eh bien, sont des cellules qui sont déjà atteintes par le virus dont je vous ai parlé, les HPV. Donc, il suffit de les dire, et la femme doit être suivie, parce que, comme je vous ai dit, l'organisme lui-même peut se battre pour éliminer. Alors, nous suivons ces femmes pour se rendre compte que, bien, au bout d'une année, il n'y a presque plus rien, mais si ça persiste, il suffit d'aller le brûler, faites ce qu'on appelle la cautérisation, ou vous pouvez faire une vaporisation au laser. Donc ce sont des techniques simples, ça ne coûte rien que de pouvoir attendre ces stades de passé où nous sommes obligés, même si la femme n'a pas d'enfant, surtout quand on est au début de ces cancers, d'enlever la matrice. Donc, c'est vous dire que si je dois insister encore sur le facteur de risque, et en dehors de ces rapports sexuels précoces, multiples, sans protection, il y a le fait que on mange mal, d'accord ? On est mal nutri. Et donc, le système immunitaire est tout à fait affaibli. On fait des malarias à répétition, et dans un pays comme c'est le nôtre, surtout la malnutrition peut vous entraîner. Il y a malheureusement des femmes qui s'adonnent à l'alcool, et en Europe, on incrimine également les tabacs.
Dans les prochains numéros de votre magazine Maïcha Bora, nous allons parler du traitement du cancer du sein du col de l'utérus, mais aussi des actions que mène la Fondation des Anges et d'autres structures dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein et du corps de l'utérus à travers 10 campagnes de sensibilisation et des dépistages gratuits précoces de ces deux types de cancers chez la femme. Fin de ce numéro de Maïcha Bora de ce jour consacré aux facteurs de risque et signes d'alerte du cancer du sein et du corps de l'utérus. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Dieudonné Nyangasa qui est à la mise en onde sous la supervision de Jean-Marc Matwaki à la présentation. C'était Marcel Ngomobala. À très bientôt dans un prochain numéro de Maïcha Bora. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.